Sécurité Santé avec Sono Group. Et rendez-vous tous les mardis sur les pages des réseaux sociaux Sono Group pour en savoir plus sur nos produits d'assurance et services financiers.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines maladies rares portent des noms aussi compliqués qu'étranges, tandis que pour d'autres, eh bien, elles sont devenues familières à la plupart d'entre nous grâce à des campagnes d'information ou des campagnes de dépistage précoce. Les maladies rares sont à de nombreux égards paradoxales parce qu'elles ne concernent effectivement, isolées les unes des autres à l'échelle d'une population, qu'un nombre relativement réduit d'individus. Mais ces affections sont tellement nombreuses, on en dénombre aujourd'hui au moins 6000, tellement nombreuses donc qu'à l'échelle planétaire, ces maladies rares touchent pas moins de 300 millions d'êtres humains. Des atteintes qui peuvent considérablement compliquer la vie, altérer les gestes du quotidien, atteintes respiratoires, musculaires, motrices, immunité défaillante, une rareté qui peut avoir un effet direct sur la prise en charge, retarder le diagnostic, limiter les investissements en termes de recherche et restreindre les solutions thérapeutiques. Certaines de ces maladies sont méconnues, d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous proposons de parler de l'une d'entre elles, l'hémophilie, maladie héréditaire qui altère la coagulation, maladies au pluriel, en fonction de la gravité des manifestations. Prendre en charge l'hémophilie, c'est le plus souvent d'abord prendre en charge un enfant hémophile et accompagner sa famille, soulager, protéger, traiter, mais aussi apprendre à vivre avec cette différence. 14e journée de la Journée mondiale des maladies rares, 28 février, aujourd'hui dans Priorité Santé, l'hémophilie, maladie héréditaire grave. Deux spécialistes, deux hématologues qui nous accompagnent au cours de cette émission. Avec nous en studio, docteur Laurent Frenzel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue et responsable du centre d'hémophilie à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, hôpital qui est jumelé avec le centre national de transfusion sanguine de Dakar. En ligne du Congo, on vous retrouve, professeur Alexis Elira Dokekias, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service hématologie au CHU de Brazzaville. Vous êtes également professeur Dokekias, président de la Société africaine d'hématologie. Les maladies rares, pourquoi est-il important d'améliorer la sensibilisation? On en parlera avec Marie-Pierre Bichet, vice-présidente d'Alliance Maladies Rares, spécialiste de l'éducation thérapeutique. Et on donnera en fin d'émission la parole à une patiente atteinte d'une maladie neurologique particulièrement douloureuse, Diane Watrelot, qui souffre d'algie vasculaire de la face depuis l'adolescence.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Laurent Frenzel, je viens de dire à l'instant qu'il y a des hémophilies au pluriel. Comment est-ce qu'on évalue précisément la sévérité d'une forme d'hémophilie par rapport à une autre?
De deux manières, on peut les évaluer. Tout d'abord, sur une prise de sang. Donc, on peut doser les facteurs de la coagulation qui manquent dans le cadre de l'hémophilie. Et puis, une autre façon également, cliniquement, en fonction du nombre de saignements spontanés ou traumatiques, et la localisation des saignements.
Ça veut dire pour le patient, ça va contextualiser la prise en charge, c'est-à-dire pour une forme plutôt légère, le médecin, ce sera un rendez-vous très très régulier. Pour les autres, ce sera beaucoup plus espacé.
Pour les formes sévères, oui. En général, c'est des consultations. En tout cas, nous, à l'hôpital Necker, c'est plusieurs fois par an. Hein. Donc, pour voir si le traitement est tout à fait adapté, permet de protéger correctement contre les saignements. Maintenant, pour les formes, on va dire, modérées, mineures, souvent, c'est très peu de consultations, voire pas du tout. Ça m'est déjà arrivé de diagnostiquer une forme mineure à l'âge adulte, adulte même tardif, notamment juste avant une intervention, où on peut mettre en évidence cette anomalie.
Professeur Alexis Elira Dokekias, on va bien sûr parler tout à l'heure des traitements, mais d'abord encore l'hémophilie, maladie rare. Pourtant, son nom est assez connu dans un pays comme la France, certainement en lien avec un drame de santé publique, hein, le scandale sanitaire, scandale politique aussi qui s'est produit dans les années 80-90, l'affaire du sang contaminé, parce que des enfants hémophiles avaient reçu du sang non chauffé, non traité pour détruire le VIH-Sida. Ils avaient été contaminés, beaucoup en sont morts. Mais chez vous, au Cameroun, est-ce que l'hémophilie, ce nom, cette maladie, est connue donc du grand public dans ce pays où vous exercez? Au Congo.
Merci madame. Je voulais dire que l'hémophilie comme maladie rare, on peut dire à ce stade qu'elle n'est pas encore assez connue. Malgré les nombreux efforts que nous faisons dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de l'information, la maladie n'est pas assez connue, ni de la population, ni des personnels de santé qui sous-estiment le plus souvent les symptômes de la maladie et qui font que la majorité de nos patients arrivent souvent à des stades à problème.
Stade à problème, ça veut dire par exemple après avoir perdu beaucoup de sang ou quand il y a déjà une altération des articulations?
Bon, le problème c'est qu'entre le nord et le sud, il y a certaines différences. Chez nous, pour des raisons socioculturelles, la majorité des enfants nous sont admis dans nos services au centre après le geste de circoncision précoce. Mmh. La circoncision, c'est un geste qui se fait à partir de 3 mois dans la plupart des familles. Mmh. Évidemment, à l'issue de la circoncision, l'enfant saigne tellement qu'après les bandages qui sont faits successivement, on arrive à transfuser l'enfant. Mmh. Et c'est à cette occasion que nous sommes interpellés pour faire le bilan, pour dépister ces formes sévères. Mmh. Donc, au niveau des formes qu'on dit modérées ou mineures, en tout cas chez nous, en Afrique et au Congo particulièrement, le dépistage est délicat. Alors, il est délicat parce qu'il faut un effort important de sensibilisation pour permettre de voir quelles sont les formes fausses d'hémophilie.
Professeur Dokekias, on disait tout à l'heure, directeur général aussi du centre de référence de la drépanocytose et des maladies rares au centre Antoinette Sassou Nguesso. On peut imaginer qu'une maladie comme la drépanocytose, autre maladie génétique du sang, est plus connue dans ce contexte congolais?
Mais et c'est ceci grâce aux efforts de sensibilisation qu'on a fait, que beaucoup de dirigeants nous ont aidés à faire. Mmh. Je crois que de plus en plus, la drépanocytose est connue. Mmh. Mais par contre, l'hémophilie, on nous assiste, nous faisons des efforts, mais il manque de la logistique pour aller vers l'intérieur du pays. Là, je suis à 400 km de Brazzaville, donc je consulte. En même temps, je sensibilise. Mmh. Sensibiliser pour dépister. Donc voilà un peu la préoccupation des pays où que, de façon globale, si vous parlez à l'hémophilie et à un dirigeant, ben, il se pose la question de savoir, il faut hémophilie, c'est quoi? Ça existe où? À raison de plus, la population non alphabétisée, elle ne comprendra pas.
Alors justement, on imagine aujourd'hui, il y a une famille qui nous écoute, hémophilie, c'est la première fois qu'ils entendent ce mot. Vous parliez tout à l'heure de la cérémonie de la circoncision. Comment alerter les familles? Avec quels signes, quels symptômes, on va dire? Là, il y a un saignement qui ne ressemble pas à ce qui se passe naturellement quand on se blesse, quand on a une incision. Quel signe doit alerter?
Bon, ça doit alerter. Première chose, il faut que les circoncisions soient faites par les personnels de santé.
Oui.
Alors, si les circoncisions sont faites de manière traditionnelle, évidemment, à partir de là, c'est délicat. Mmh. On admet les patients au stade de complications réelles. Mmh. Les personnels de santé devaient être sensibilisés pour savoir quelles sont les manifestations précoces d'hémophilie chez un enfant. Mmh. Le saignement après circoncision, le saignement de la bouche quand l'enfant a mâché, le saignement dans les articulations qui gonflent quand l'enfant apprend à marcher à quatre pattes. Mmh. Il s'agit de circonstances que les gens doivent maîtriser. En même temps, lorsque dans une famille, il y a eu un enfant hémophile, il est important que les personnels de santé qui appliquent ces gestes, ou alors la population de façon globale, sachent qu'il y a la probabilité de dépister un autre garçon qui atteint de cette anomalie dans la famille. Bon, le problème pour nous en Afrique centrale, particulièrement au Congo, c'est que si on n'a pas beaucoup d'hémophiles, c'est parce que dans certaines régions de nos pays, il y a peu de mariages consanguins. Il y a dans nos familles, à nous, dans le nord du Congo par exemple, lorsque on doit aller épouser une cousine, même de quatrième génération, ceci est vomi par la famille, est recusé par la famille. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de couples qui sont originaires, enfin, dans le même contexte familial, évidemment, au nord du pays, l'anomalie est rare. Par contre, dans la partie sud du pays, les gens peuvent s'épouser entre eux, de deuxième, troisième génération, quatrième génération. C'est la raison pour laquelle l'essentiel de nos patients hémophiles proviennent de la partie sud du pays où cela existe. Voilà un tout petit peu les circonstances pour lesquelles il faut faire le dépistage, il faut faire la sensibilisation pour détecter les conductrices, pour faire de telle sorte que dans les familles, on dessine l'arbre généalogique d'un enfant hémophile pour pouvoir retrouver s'il y a d'autres hémophiles au niveau de la famille étendue.
Précisément cette question de l'hérédité qui se pose un petit peu partout en Afrique. Ce message Facebook d'un auditeur du Tchad, c'est Tidjani de Djamena. Il explique que dans son pays, précisément dans certaines ethnies, sous prétexte de préserver ce lien familial, ces mariages en famille sont célébrés entre cousins et cousines pour élargir le groupe. Et cet auditeur demande si cette pratique est de nature à provoquer des maladies génétiques. Justement, professeur Alexis Dokekias, c'est ce que vous venez d'évoquer. Ça vaut pour l'hémophilie. l'hémophilie, ça vaut pour la drépanocytose, ça vaut pour beaucoup d'autres maladies. On essaye justement de maintenir la tradition, mais à quel prix en termes de santé ?
Bon, je crois que le plus important, c'est sensibiliser. Nous, notre rôle comme médecin, c'est pas d'empêcher les gens de se marier. Le plus important, c'est de comprendre que si, dans la même famille, il y a un risque qui existe, le risque fera qu'on pourra donner des formes d'hémophilie. Alors, ou alors d'autres formes de maladies génétiques. Mais on sensibilise la population dans ce sens. Notre rôle à nous, c'est pas de les empêcher de se marier.
C'est des informés.
Ce qui est là, c'est que dès lors que les gens sont mariés, dans des familles de deuxième, troisième, quatrième génération, le risque de propagation de maladies génétiques est plus important que lorsque les gens sont mariés à distance. Voilà tout petit peu sur les raisons culturelles qu'il faut expliquer, mais ça fait le constat de la situation au Congo. Contrairement, par exemple, vous comprenez, au niveau des pays d'Afrique de l'Ouest, certains pays, comme le Tchad et Tchéno en Afrique centrale, pour certaines raisons également, ils favorisent les mariages consanguins. Mais les favoriser, c'est exposer au risque de faire que les maladies génétiques se transmettent.
Alors, pour revenir au diagnostic, docteur Laurent Frenzel, quand on dit hémophilie, on associe cette image des saignements, des blessures en fait qui n'arrivent pas à cicatriser. Mais il n'y a pas que ces blessures visibles, il y a aussi des manifestations profondes.
Tout à fait. C'est même les principales complications hémorragiques chez les patients hémophiles, notamment chez les patients hémophiles sévères. Alors, qu'est-ce qu'on entend par profond ? C'est avant tout articulaire. Ça représente 2/3 des sites de saignement. Articulaire veut dire des gonflements. Il faut imaginer qu'avoir du sang dans une articulation, c'est pas normal. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est inflammatoire. Ça peut mettre du temps, effectivement, à disparaître. Profond veut dire également dans les muscles, certains muscles, donc ce qu'on appelle des hématomes musculaires, qui peuvent également être très douloureux et relativement longs à disparaître. Et dans certains cas, on peut également avoir des saignements, notamment au niveau cérébral, ça peut arriver, de manière spontanée ou lors d'un traumatisme qui peut être minime, et donc il faut faire particulièrement attention par rapport à cela.
Est-ce qu'il arrive dans votre service que la maladie fasse irruption dans la vie d'une famille, ou est-ce qu'il y a toujours un terrain familial, une hérédité ? Est-ce qu'il y a des gens en fait qui découvrent l'hémophilie du jour au lendemain ?
Bien sûr, je dirais pas que ça arrive souvent, mais c'est pas rare du tout. Alors, il faut bien comprendre que l'hémophilie est une maladie génétique qui se transmet, mais qui a un mode de transmission qui est un peu particulier, qui est lié à l'X. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'on a déjà entendu que souvent les hémophiles, c'est que les garçons. Oui, c'est que les garçons, parce que les garçons ont un X, un Y. Si le gène est porté sur le chromosome X, ils n'ont pas un autre X pour compenser. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une femme qui sera porteuse, pourra éventuellement transmettre, mais ne fera pas de symptômes, tout simplement parce qu'il y aura l'autre chromosome X qui pourra compenser. Dans 1/3 des cas, on n'a pas de notion familiale d'hémophilie, ce qu'on appelle une néomutation. Elle apparaît à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ce que vous expliquez là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun antécédent familial d'hémophilie connu, et pourtant ça peut arriver, ça peut faire éruption dans une famille.
Si on veut bien expliquer clairement, les femmes portent mais développent pas ou peu la maladie, les hommes portent et développent potentiellement.
Absolument.
Alors on va vous retrouver tous les deux pour continuer de parler d'hémophilie dans quelques minutes, notamment des conséquences pour le quotidien, la prise en charge. Mais un élément essentiel lorsque l'on parle de ces maladies rares, c'est bien le sujet de l'éducation thérapeutique.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est l'un des thèmes que l'on va aborder avec vous maintenant, Marie-Pierre Bichet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes la vice-présidente d'Alliance Maladies Rares, donc spécialiste de l'éducation thérapeutique. Des maladies dépistées le plus souvent chez les enfants, Marie-Pierre Bichet, ça signifie que des spécialistes dans les services de pédiatrie vont d'emblée établir un lien à la fois avec le jeune patient, mais aussi avec ses parents.
Oui, effectivement, dans la plupart des maladies rares, elles se déclarent dans 75% durant l'enfance. Et donc, même si ça se déclare à l'âge adulte, en fait, c'est tout un noyau familial qui est impacté par cette maladie rare. Et il est très important que l'ensemble de la famille puisse comprendre la maladie, puisse accompagner la personne malade. Alors, les enfants, évidemment, en premier lieu, mais aussi un conjoint doit accompagner la personne malade, ou des enfants accompagner leurs parents, parce qu'on peut avoir des maladies rares qui se déclarent aussi plus tard dans la vieillesse. Et c'est vrai que comprendre la maladie et pouvoir agir sur cette maladie, c'est un peu le but de l'éducation thérapeutique. Et c'est vrai que pour nous, c'est primordial que les personnes malades puissent être actrices de leur santé.
Est-ce que l'errance diagnostique, c'est encore une réalité pour beaucoup de patients concernés par ces maladies rares ?
Oui, c'est malheureusement une des spécificités des maladies rares. Vous avez cité tout à l'heure 6000 maladies rares. Il y en a de nouvelles qui sont décrites tous les jours. Mmh. Et puis, certaines concernent 2, 3, 5 individus en France ou dans le monde. Et évidemment, c'est très compliqué de diagnostiquer ces maladies. Elles sont si nombreuses, elles sont souvent très complexes. Et pour un quart des personnes qui sont concernées par ces maladies rares, une étude récente de l'Alliance Maladies Rares a montré qu'encore, il y avait 4 à 5 ans d'errance diagnostique, c'est-à-dire que les personnes consultent 1, 2, 3, plusieurs médecins, vont de service en service pour chercher à comprendre l'origine de leurs symptômes et puis surtout pour avoir des traitements, parce que l'objectif, c'est quand même
d'être soigné,
d'avoir des traitements. Mmh. Oui.
Difficile de généraliser, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a plutôt des résistances à l'annonce du diagnostic ou à l'inverse, une forme de soulagement quand on sait enfin le nom, quand il y a un nom justement, du mal dont on souffre ou dont souffre notre enfant?
Alors clairement, oui, ce mot soulagement, je pense qu'il est très juste. Évidemment, on peut, comme vous dites, on ne peut pas généraliser, mais ne pas savoir ce qu'on a, c'est ne pas pouvoir, je dirais, franchir cette étape de dire, bon voilà, j'ai un problème, mais je sais ce que c'est, je l'ai identifié, et du coup, je sais vers où aller pour pouvoir, je dirais, ou reconstruire une autre vie, ou parce que souvent, ça affecte le pronostic vital, notamment chez les enfants, donc évidemment, ça remet en cause tout un tas de projets qu'on fait pour nos enfants, hein, forcément. Mais oui, un soulagement énorme. Et puis surtout, les gens ont besoin d'être reconnus. C'est-à-dire que, parce que quand on n'a pas de diagnostic, souvent, on a des situations où il y a une espèce de négation des symptômes. On pense que les gens, ils affabulent, ils imaginent, ils en rajoutent. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est très, très, très douloureux, toute cette phase est très douloureuse.
Maladies rares au pluriel, certaines d'entre elles concentrent une attention importante, d'autres sont beaucoup moins médiatisées. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Alors, vous avez cité l'hémophilie. Effectivement, il y a certaines maladies rares, d'abord, qui sont plus nombreuses, en nombre.
Je pense par exemple à la mucoviscidose, qui est une maladie rare. Mais il y a énormément de campagnes, et puis il y a le dépistage systématique. Ça fait que pratiquement tout le monde sait ce que c'est. Toutes les jeunes mamans, en tout cas, connaissent le nom de cette maladie.
C'est vrai. Alors, c'est une question qu'à l'Alliance Maladies Rares, sur laquelle on est très attentif. C'est vrai qu'il y a quelques dépistages néonataux qui existent en France. Aujourd'hui, il y a 5 maladies qui sont dépistées, je dirais, à la naissance, à travers une petite goutte qu'on prélève sur le talon de l'enfant. Et parce que ce sont des maladies où, si on met en place un traitement très tôt, c'est-à-dire finalement dès la naissance, on peut parler aussi de la phénylcétonurie, où là, c'est un régime qui doit être mis en place, eh bien, le pronostic vital est complètement différent. Et donc, on milite fort à l'Alliance Maladies Rares pour qu'il y ait beaucoup plus de maladies, parce qu'aujourd'hui, on a plus de traitements quand même, ça a évolué. Et en France, on n'a pas trop évolué et fait évoluer ce lot de 5 maladies. Et donc, c'est en cours
On sait que sur la liste d'attente, il y a notamment la drépanocytose, et que c'est excessivement important. Service des maladies rares dans certains grands hôpitaux de France, avec des spécialités dans la spécialité. Ça veut dire aussi parfois, pour certaines familles, pour certains patients, un vrai problème d'éloignement de leur centre de référence.
Ah oui. On a néanmoins de la chance, je pense qu'il faut le rappeler.
Il y a quand même un bon maillage territorial, mais il y a toujours un mais.
Et oui, il y a toujours un, mais on a quand même donc, 3 plans maladies rares grâce à l'investissement fort de tous les malades et de toutes les associations qui sont regroupées. Et dans ces 3 plans maladies rares, ça a permis d'identifier des centres d'expertise qu'on appelle les centres de référence. Il y en a plus de 380. Il y a aussi des centres de compétences. Il y en a près de 2000 en France qui sont répartis. Et puis plus récemment, et je pense que c'est très important de le mentionner parce que c'était quelque chose de très important, il y a maintenant, depuis 2020, 4 plateformes de coordination maladies rares en Outre-mer. Donc, il y en a une en Guyane, une en Martinique, une en Guadeloupe et une à La Réunion. Et ces plateformes sont vraiment essentielles parce que ces personnes-là, elles sont encore plus seules, je pense. Et les professionnels de santé aussi, c'est très difficile pour eux. Donc, ces plateformes, je pense, vont vraiment pouvoir améliorer le parcours de soins de ces personnes malades dans ces territoires et départements d'outre-mer.
Merci beaucoup Marie-Pierre Buchet d'avoir répondu à nos questions. Ça renvoie aussi à une autre question. Professeur Alexis Lira d'Okekias, vous êtes en ligne du Congo. Les défis sanitaires à avoir accès à un médecin, c'est ce que vous faites en ce moment même où on se parle, puisque vous êtes en milieu rural pour aller faire des consultations nomades, on va dire. Est-ce que dans des systèmes de santé parfois vulnérables comme en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, ce défi face à des maladies parfois un petit peu mystérieuses pour le grand public, ce défi est encore plus important?
Oui. Il s'agit parfois d'un chemin de croix. C'est la raison pour laquelle notre rôle à nous, comme des médecins spécialistes, c'est d'accompagner les districts sanitaires. Parce que la cartographie sanitaire est faite du district sanitaire. Et dans chaque district sanitaire, il y a donc un hôpital de référence, puis les centres de santé qui végètent autour. Alors, si nous venons vers ces structures, c'est pour consulter avec nos collègues médecins qui animent les districts sanitaires. Pour les faire comprendre la maladie, pour qu'ils comprennent au même titre que nous la maladie, certaines maladies rares, qu'ils assurent la prise en charge ces maladies rares par rapport à leur paquet minimum d'activités et de possibilités, et qu'ils soient, bien sûr, en situation de référer lorsque les conditions de prise en charge locale ne l'autorisent plus.
C'est un petit peu de la formation continue.
Voilà, c'est un peu la formation du coaching. Et malheureusement, bon, la réponse n'est toujours pas uniforme. Il y a certains confrères médecins qui adhèrent, il y a d'autres qui adhèrent quand vous êtes là, mais il suffit de tourner le dos. Bon, la famille doit vous interpeller elle-même par téléphone pour dire, voilà, professeur, nous avons telle situation, et pour relier, alors que localement, on a créé les conditions pour que les collègues qui sont sur place assurent dans la prise en charge locale des patients.
Alors avant d'aborder la question des traitements, tout de suite un témoignage dans Priorité Santé, cette maladie qui bouleverse le quotidien.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
Votre témoignage, Néfissetou, bonjour.
Bonjour Caroline.
En ligne de Nouakchott, Néfissetou, vous êtes la maman de 4 garçons, tous sont hémophiles, c'est bien ça ?
Oui, j'ai 4 garçons hémophiles.
Comment est-ce que vous avez su que vos fils avaient cette maladie du sang?
Oui, j'avais 2 frères qui ont cette maladie. Ils ont décédé dans des conditions très douloureuses. Oui.
Quand ces frères ont été pris en charge, il y a eu le mot hémophilie de prononcer par les médecins. Vous saviez que cette maladie?
Oui, mais c'est après leur décès.
Une fois qu'ils sont... D'accord, vous avez eu le résultat après.
Oui, oui.
Et est-ce qu'ils ont informé les filles de la famille, les sœurs, que quand elles fonderaient à leur tour une famille, il faudrait peut-être faire attention à la santé des enfants, notamment s'ils se blessaient, s'ils montraient des petites blessures, il faudrait être peut-être plus attentif que les autres parents?
Oui, oui. C'est ça. Depuis là, on a commencé. Moi, quand j'ai eu mon premier garçon, j'ai fait l'analyse à Paris quand il a 1 mois.
Oui.
Oui. Et on a détecté l'hémophilie à sévère.
Hémophilie sévère. Votre fils aîné, il est décédé de la maladie, c'est ça?
Oui.
Il avait quel âge?
8 ans.
8 ans. Et c'est suite à un accident particulier, dans quelles circonstances est-ce que cela est arrivé?
Il est tombé.
Il est tombé.
Il est tombé. Je crois qu'elle avait un saignement interne, je ne sais pas. C'est après qu'on nous a dit ça.
Et après, vous aviez déjà les autres garçons, d'autres enfants étaient déjà nés?
Non, non. C'est après, en 1999, j'ai eu ma fille. Et son frère en 2003. Oui. Après, il y a les autres garçons. Mais à chaque fois, quand j'accouche, à partir de 1 mois, je fais l'analyse.
Vous faites l'analyse avec le service. Est-ce que vous allez justement dans un service spécial à l'hôpital à Nouakchott qui suit toute la fratrie, toute la petite famille, ou vous allez voir un médecin en ville?
Non, non, avant, on était à Dakar.
Vous étiez à Dakar, ok. Et vous êtes toujours suivi à Nouakchott, là, quand même, par un hématologue?
Non, non, on nous a envoyé un médecin à Dakar, celui qui suivait les enfants là-bas, certains diarrhées aussi. Oui.
Et aujourd'hui, le plus grand, il a un traitement?
Oui, il est sur prophylaxe.
Et vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est, ce traitement?
Oui, oui.
De quoi
c'est pour les... On l'a mis sur prophylaxe pour les hommes qui avaient les... Parfois, ils ne peuvent pas marcher, parfois, ils ne peuvent pas aller à l'école.
Mmh. Oui. Docteur Laurent Frenzel avec moi en studio. Prophylaxie pour l'hémophilie, de quoi s'agit-il?
Oui, bonjour madame. Ce qu'on entend par prophylaxie, c'est de proposer un traitement régulièrement, souvent une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, ce qui pour l'instant s'administre essentiellement par voie intraveineuse. Le principe, c'est d'apporter le facteur de la coagulation qui manque. Donc soit le facteur 8 ou facteur 9, en tout cas dans le cas de madame et de ses garçons, c'est une hémophilie A, donc c'est du facteur 8 qu'on administre régulièrement pour essayer de le couvrir le plus possible, en sachant que ce traitement à ce qu'on appelle une demi-vie courte, c'est-à-dire qu'il ne reste pas très très longtemps dans le sang, donc très rapidement il disparaît. C'est pour ça qu'il faut souvent répéter les injections.
Alors, votre grand a un traitement. Est-ce qu'à la maison, pour l'alimentation, vous suivez des conseils particuliers?
Oui.
Par exemple
bien les aliments.
Par exemple
Je prépare toujours des haricots, lentilles, comme ça.
Pour apporter du fer?
Oui, pour apporter du fer, oui.
Pour lutter contre l'anémie. Et... pour l'école, comment est-ce qu'ils font les garçons? Est-ce qu'ils sont scolarisés? Comment est-ce que vous êtes organisés?
Ils sont scolarisés parce que c'est leur père, à cause de que leur père a ouvert une école privée.
Ouais.
Auprès de nous.
Il a carrément il a carrément pris le taureau par les cornes. Comme l'école était trop dangereuse pour vos fils, il a ouvert, on va dire, une école adaptée pour eux.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette école pour protéger des garçons hémophiles?
J'avertis leurs amis pour qu'ils ne se battent pas avec eux. Et qu'ils ne jouent pas au ballon avec eux. C'est ça.
Est-ce que vous diriez, Nefissetou, que vous avez plus de peur que votre mari en ce qui concerne les risques qu'encourent vos fils? Est-ce que des fois vous paniquez un petit peu? Vous avez tendance, comme on dit parfois, à les surprotéger?
Oui, moi je panique toujours.
Oui.
Mais leur père, il aime toujours laisser faire le sport.
Ouais.
Mais moi, j'ai toujours peur.
Et ça crée des disputes?
Oui, ça crée des disputes.
Et les garçons, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils n'ont pas envie de rester tranquillement assis sur une chaise, j'imagine?
Non, il ne faut pas rester tranquille.
Est-ce que vous avez l'impression d'être aidé quand vous écoute un petit peu? Parce que déjà, on a bien compris, vous avez perdu un garçon, c'est une véritable épreuve. Ensuite, il y a ces enfants qui sont malades. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident un petit peu à affronter tout ça? Ou finalement, discuter avec votre mari, eh bien, ça passe comme ça?
Oui, parce qu'avant, mon mari connaissait la maladie.
Ouais.
Avant, comme son mari.
Donc, ça veut dire que informer les gens déjà sur la maladie, c'est très important pour éviter qu'ils aient peur et pour qu'ils se préparent bien à affronter la maladie.
Oui, oui. J'informe. Si je vois quelqu'un qui a peur, je le conseille toujours que ce n'est rien, c'est une maladie.
Parce qu'autour de vous, il y a encore des gens qui disent « Oh là là, ils ont une maladie bizarre, peut-être qu'ils sont un petit peu... Peut-être qu'il y a des esprits ou quoi que ce soit. » Il y a des gens qui pensent ce genre de choses?
Oui, oui.
Oui.
Même dans la famille.
Dans la famille? En gros, ils disent « Il y a peut-être des... Ils sont peut-être un petit peu maudits, c'est ça ?»
Oui.
Professeur Alexis... Excusez-moi, j'ai demandé son avis au professeur Dokekias, qui est au Gabon. Mais on sait que des croyances, il y en a dans toutes les régions du monde, absolument dans toutes les régions du monde. Est-ce que chez vous, aussi au Congo, professeur Dokekias, il y a justement ce type de croyances, on peut dire de fausses croyances pour le coup, qui entourent l'hémophilie?
Bien évidemment, il y en a pour toutes les maladies, y compris l'hémophilie. Le problème est relativement un peu moins important parce que nous avons, grâce à l'appui de nos partenaires extérieurs, en cours un programme de sensibilisation important dans les écoles, des enseignants, des corps enseignants et autres. C'est ce qui fait que ce problème est rare. Mais n'empêche qu'on peut retrouver d'une famille à l'autre où l'enfant est qualifié de sorcier.
Mmh.
Il suffit l'articulation, l'enfant est gonflé, l'enfant est saigné. Mais on dit que l'enfant, il saigne pour exporter le sang auprès des sorciers. Mmh. Donc, il y a toujours des considérations, des interprétations autissantes. Mais nous faisons des efforts pour lutter contre ce phénomène de désinformation.
Mmh. Nefissetou, une dernière chose. Est-ce que vous avez des questions à poser aux deux spécialistes qui sont avec nous en studio?
Oui, je voulais lui poser une question. Mm-hmm. Dans notre famille, je vois seulement dans notre famille qu'il y a 4 garçons qui sont hémophiles. Parfois, je vois une famille, ils ont un seul garçon.
Mm-hmm. Pourquoi? Pourquoi cette probabilité, c'est ça?
Oui, oui.
Docteur Laurent Frenzel, hein, c'est ce qu'on va dire. On a des risques. Les risques ne sont pas les mêmes pour toutes les familles. Non. Et on peut dire, dans le cas de Néfis et tout, ben, la vie n'a pas été
oui,
facile.
C'est sûr, hein. Après, ça reste malheureusement des statistiques en termes de maladies génétiques. Et le risque est effectivement est vraiment particulier pour chacun et chaque famille, hein, donc, dans le risque de transmission de cette maladie.
Professeur Alexis Elika Dokekias, est-ce que vous vouliez réagir justement à ce témoignage de Néfis et tout ? On voit à la fois une maman qui prend soin de ses garçons, un papa qui a tout organisé pour leur faciliter la vie, un suivi plutôt bon au niveau médical. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce témoignage ?
Ces témoignages me rapprochent un peu de certaines familles que nous avons. Nous avons une famille où il y a 3 enfants, garçons hémophiles, âgés de 4 ans, 8 ans, 16 ans, donc dans une famille. Il y a une deuxième qui a également 3 enfants hémophiles. Cette fois-ci, ce sont les hémophiles B. Et à partir de là, je crois que ce témoignage est flagrant, ce qui suppose que si l'infection est dépistée tôt et si réellement les gens sont bien sensibilisés, si le programme d'éducation thérapeutique que nous sommes en train de mettre en place grâce à l'appui de l'Agence francophone du traitement de l'hémophilie et de la Fédération mondiale d'hémophilie, si les produits existent, on reviendra sur ça certainement, parce que le problème, c'est le coût onéreux des médicaments, des produits. Si les produits existent, on peut donner l'espoir aux enfants. Parce que nous sommes actuellement dans un programme de traitement prophylactique intermittent des patients atteints d'hémophilie, des enfants. Nous en avons 26 enfants qui sont sous programme. Tous ne résident pas à Brazzaville. On crée des conditions quand même draconiennes pour pouvoir accompagner ces enfants qui sont à l'intérieur du pays, et faire de telle sorte que les familles soient bien éduquées, comprennent la maladie, comprennent comment il faut faire les injections et comprennent comment il faut éduquer les enfants pour que, dans le milieu où ils sont, qu'il n'y ait pas de complications qui arrivent dans le cadre notamment du fait du contact avec les autres divers dans le cadre de la vie quotidienne. Je crois que cette maman exprime un désarroi. Le premier enfant est décédé malheureusement, mais ce qui est là, c'est que si on s'organise mieux, si on a des produits, je dis bien, je pose le mot si, si la sensibilisation est bien menée, on peut rendre la vie d'un enfant, d'un patient hémophile, très bien, puisque le patient le plus âgé que nous suivons, il a 72 ans. Alors non, par conséquent, on ne peut pas créer un mythe sur les maladies génétiques qui ont des particularités, mais il y a des progrès qui ont été faits, on peut améliorer les choses.
Il faut s'en donner les moyens. Merci beaucoup, en tout cas, Néfis Atou, pour votre témoignage et très bonne journée à toute la famille à Nouakchott. Priorité Santé, 14e édition de la Journée mondiale des maladies rares, 28 février. Focus sur une maladie génétique qui altère la coagulation sanguine, l'hémophilie. 2 hématologues avec nous, docteur Laurent Frenzel en studio. Au Congo, professeur Alexis Elira Dokekias. Professeur Dokekias, on parle justement maintenant des traitements. Pour bien comprendre, il ne s'agit pas en l'état de guérir, mais plutôt de contrôler la maladie.
Voilà, c'est-à-dire nous bénéficions actuellement de certaines molécules qui sont surtout des traitements substitutifs. Et ces traitements substitutifs permettent aux formes sévères de l'hémophilie de se rapprocher d'un tableau de forme modérée. Parce que réellement, quand on est en forme modérée d'hémophilie, on est pratiquement asymptomatique, sauf lorsqu'il y a une effraction, un effort, une contusion, ça peut entraîner des complications hémorragique dramatique. Or, si l'hémophile est modéré ou l'hémophilie mineure n'a pas beaucoup de symptômes ou est pratiquement asymptomatique, l'hémophile sévère, lui, il saigne spontanément. Et il peut saigner de façon importante quand il y a un traumatisme qui survient. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la majorité des pays d'Afrique noire bénéficient de donations de la Fédération mondiale d'hémophilie. Pour les pays d'Afrique francophone, grâce à la création de l'Alliance francophone du traitement de l'hémophilie. La preuve en est que le docteur Frenzel avec vous est en partenariat avec Dakar. Nous sommes en partenariat avec Bordeaux. Il faut dire que nous bénéficions beaucoup de la transmission de l'information, la transmission des progrès de la science grâce à nos collègues du Nord, ce qui fait que, grâce à leur effort et à leur assistance, nous arrivons progressivement à faire que l'hémophilie sorte de l'anonymat, à faire que le patient hémophile puisse avoir accès à des médicaments, mais malheureusement, ces médicaments sont tellement onéreux que les budgets nationaux ne peuvent pas être capables de prendre en charge. Je vous dis qu'il y a moins de 5 ans, madame, lorsque j'avais une hémophile A, je pouvais lui préparer du cryoprécipité, donc un produit d'origine plasmatique, avec les risques que vous connaissez en termes de transmission des maladies virales. Mais depuis plus de 5 ans, depuis que l'Alliance française de la transmission de l'hémophilie nous survient, nous soutient, depuis la Fédération mondiale de l'hémophilie nous soutient, mais nous bénéficions des donations en produits de substitution. C'est pour ça que nous sommes lancés dans les schémas de traitement prophylactique. Mais une fois ces donations sont arrêtées, est-ce que nos gouvernements seront capables d'assurer la prise en charge des patients atteints d'hémophilie? C'est ça la question.
Il faut qu'il y ait un relais, c'est essentiel. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour une famille hémophile dans un contexte comme le vôtre, au Congo-Brazzaville, c'est à la famille de payer le traitement? On imagine que c'est totalement inaccessible.
Évidemment, c'est-à-dire la majorité des pathologies chez nous, comme le système de sécurité sociale ne couvre pas beaucoup toute la population, il ne couvre pas une partie importante de la population. Et évidemment, si la famille doit prendre en charge une substitution d'hémophilie, ça sera difficile. Or, c'est la raison pour laquelle l'orientation doit être faite de telle sorte que, un, ceux qui fabriquent réduisent les coûts pour permettre à nos pays, même s'ils ont transmis des budgets en ligne dans nos centres, par exemple, sur le plan des médicaments, l'acquisition des produits, mais il faudrait que cette ligne soit suffisante pour prendre en charge les patients hémophiles. Si je soumets un enfant qui a 5 ans, qui a commencé l'école, un traitement intermittent et prophylactique, quand je dois l'interrompre, je dois mordre les doigts. Parce que quand je vais interrompre ce traitement, j'expose cet enfant aux complications hémorragiques. D'autre part, il y aura d'autres complications, le docteur Laurent Saint-Evan, des inhibiteurs qui peuvent apparaître durant la période de prise en charge de l'enfant. Quand il apparaît des inhibiteurs, il y a des médicaments qui sont nouveaux, qui sont découverts, qui existent. Nous venons d'en recevoir dans la Fédération mondiale d'hémophilie, mais ce médicament n'est pas accessible. Donc, les médicaments coûtent excessivement cher. Donc, le problème, c'est un, pendant la période d'or, nous allons bien sûr assurer une meilleure prise en charge des enfants qui sont dépistés. Nous allons faire l'effort de dépister ceux qui... Et nous devons nous préparer à prendre le relais pour que ce que nous avons fait ne soit pas éphémère.
Docteur Laurent Frenzel, on a entendu le terme inhibiteur. Vous pouvez m'éclairer parce que là, je...
Oui, alors il faut imaginer qu'un patient qui est hémophile A avec un déficit en facteur 8 ou B avec un déficit en facteur 9 n'a pas cette protéine. Ce qu'on va faire, c'est lui apporter cette protéine.
C'est ça, c'est substitutif.
Voilà, c'est substitutif. Sauf que ce patient n'a jamais vu cette protéine, entre guillemets, et peut déclencher une réaction allergique comme on le ferait, par exemple, lors d'une allergie, par exemple, à un acarien, quelque chose de beaucoup moins embêtant. Mais là, on peut faire une réaction, développer ce qu'on appelle des allo-anticorps. Et ça, c'est vraiment problématique. Comme effectivement, on a très bien dit mon collègue, on ne peut plus redonner le produit en question.
C'est une sorte de rejet.
C'est une sorte de rejet, ça ne marche plus. Il faut utiliser d'autres traitements plus régulièrement et qui sont encore plus onéreux.
C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a plusieurs lignes de traitement pour offrir une alternative thérapeutique. On comprend bien, il y a les produits, il y a ces injections, mais essentiel, il y a les conseils, qu'il s'agisse en termes d'éducation, de comportement. On a compris tout à l'heure, on ne va pas se mettre à faire de l'escalade quand on est hémophile, on ne va pas faire de la course automobile, on va éviter aussi, ou même peut-être du ski, attention, même si dans certaines contrées, de façon en ce moment, du ski, on ne peut pas en faire, donc ce n'est pas un problème. Des conseils diététiques également?
Oui, des conseils diététiques. C'est vrai que la maman dont on a eu le témoignage favorise une alimentation avec des lentilles, des haricots, parce que c'est riche en fer. Oui, dans le cas où il y a des saignements, on sait qu'on perd du fer. Oui, c'est très bien. Après, en termes d'activité, nous, on a quand même tendance à proposer à nos enfants hémophiles d'essayer de faire une activité quand même assez régulièrement. Alors, vous avez tout à fait raison. On ne va pas les exposer à un traumatisme avec un sport qui est effectivement un risque. Bien sûr que non. Mais au contraire, il faut quand même qu'ils puissent...
Il faut qu'il y ait de l'activité physique.
Absolument. Voilà. Absolument.
C'est comme pour la drépanocytose.
C'est pareil.
Il y a des rumeurs qui disent attention, il faut boire, il faut faire quelque chose qui nous correspond avec le conseil, en parler avec le médecin.
Tout à fait, donc ça c'est important.
Docteur Laurent Frenzel, on arrive à la conclusion. La recherche, les avancées en termes de thérapie génique, on va dire que vraiment c'est une réalité pour certains, l'espoir est là pour d'autres.
Absolument, oui, c'est une réalité. En France, on est actuellement sur des programmes de thérapie génique. Faut bien entendre, qu'est-ce qu'on entend par thérapie génique? On sait que c'est une maladie génétique et un gène qui n'est pas normal. L'idée, c'est de le remplacer. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais pas tant que ça, en fait. On le remplace avec l'aide de ce qu'on appelle un vecteur, c'est-à-dire un petit bout de virus. Ça, c'est d'actualité en ce moment, vous allez me dire. Mmh. C'est un petit bout de virus auquel on accroche le gène, on injecte, c'est une seule injection. Mmh. Et après, ce virus va amener ce gène dans les cellules du foie qui produisent des facteurs de coagulation. Et puis, tout doucement, au bout de quelques semaines, le foie va se mettre à reproduire le facteur.
Ça colonise.
Absolument.
Mmh. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des donneurs.
Il faut qu'il y ait... Alors, des donneurs, non, pas forcément, parce que c'est des virus. Non, il n'y a pas besoin de donneurs, ce n'est pas comme dans une allogreffe. Mmh. Mais après, il y a une surveillance. Pour l'instant, on est vraiment dans l'expérimental. Mmh. Et j'espère qu'à terme, cette technique sera suffisamment développée pour pouvoir le proposer au plus grand nombre, en tout cas.
En Afrique centrale, au Congo, professeur Elira Dokekia, ce sera le mot de la fin. L'espoir pour les patients, pour les soignants face à l'hémophilie aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi?
C'est d'abord le dépistage précoce. Mmh. Pour éviter les complications, pour éviter le dépistage tardif, le dépistage des formes silencieuses, le dépistage des conductrices, c'est-à-dire au sein des familles, de voir quels sont les porteurs, les dames qui portent, les filles qui portent le gène anormal, mm-hmm. et qui peuvent faire des garçons atteints d'hémophilie, mm-hmm. dans les formes qu'il y a, et que le deuxième espoir, c'est avoir les médicaments, mm-hmm. les médicaments de substitution qui existent. Mm-hmm. Et puis, comme nous lançons dans un programme au long cours de traitement prophylactique intermittent, ou alors chez les adultes de prise en charge par des traitements, ce qui est souvent de complications hémorragiques, il va apparaître, comme a dit le collègue, des implicants. Donc, d'être en mesure d'avoir également cette gamme de médicaments qui permet d'y passer ou de faire de telle sorte en plus leur donner un traitement qui assure une stabilité qui participe à la vie.
Merci beaucoup, professeur Alexis Dokekia. Je suis vraiment navrée de vous couper parce que la ligne est en train de se dégrader de façon flagrante. On a du mal à vous percevoir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications d'avoir été en ligne du Congo où vous êtes chef du service d'hématologie au CHU de Brazzaville. Merci beaucoup, docteur Laurent Frenzel. Je rappelle vous que vous êtes hématologue à l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris, prise en charge de la douleur, des atteintes qui peuvent bouleverser le quotidien. Un autre témoignage à suivre juste après une pause en musique avec le duo Youssoufa Céline Banza et ce titre Départ.
Vous êtes sur RFI et vous écoutez Priorité Santé.
C'est à doua kozona zolo sala legetello. C'est à dunga kozona zolo lengbeti ungondatello. Lolo dundon dengembe yendo undo. Lolo dun dun dang and be sad and don't know. Say I do a cozon as a lo sala le getello. Say I don't got cozon as a lo lang between one that tello. Lolo dun dun dang and be and don't Lolo dun dun dang and be sad and don't know. Tamodabe mumma binalandango de getembe. Na komyo tiga. Pongye mema nga. Et même si tu pars, je reprendrai.
Priorité santé, faire face à une douleur sévère chronique, identifier les déclencheurs. Mais aussi enchaîner les opérations, c'est un petit peu votre vécu. Diane Ouattrelot, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors le nom de votre maladie n'est pas forcément connu du grand public, il s'agit de l'algie vasculaire de la face. Vous vivez avec depuis l'adolescence, mais il a fallu 10 ans avant que le diagnostic soit établi. Expliquez-nous, Diane Ouattrelot, dans quelles circonstances vous avez enfin mis un nom sur des années et des années de douleur.
Alors donc effectivement, moi je suis atteinte d'algie vasculaire de la face depuis l'âge de mes 14 ans. Donc ce sont, je peux expliquer un petit peu ce que c'est l'algie vasculaire
de la face. Bien sûr, les symptômes notamment.
Oui, parce que c'est une maladie effectivement qui est rare et qui fait que le diagnostic est très très long. Et c'est ça qui est compliqué. Au niveau des symptômes, ce sont des douleurs qui sont très insoutenables au niveau de l'œil. Souvent, les médecins compare ça à une amputation sous anesthésie pour donner une ordre d'idée, donc c'est vraiment extrême. Et donc des douleurs au niveau de l'œil, comme un peu un tournevis qu'on plante dans l'œil, des œdèmes au niveau de la paupière, on a l'impression d'être comme dans un lion en cage, on est très on n'arrive pas à rester en place. Les crises durent à peu près 40 minutes à une heure. Et moi, j'ai une dizaine de crises par jour. Donc, c'est une maladie qui est extrêmement invalidante au niveau de la vie sociale, qui est très impactée, la vie professionnelle, la vie familiale. C'est vraiment la vie entière qui est finalement impactée et détruite par cette maladie. Donc, moi, la maladie a commencé à 14 ans. Elle est devenue chronique à 23 ans. Donc, c'est-à-dire que finalement, j'ai tous les jours, jour et nuit, des crises.
Est-ce que ça veut dire que ça a bouleversé vos projets d'études, vos projets de vie professionnelle?
À partir de 23 ans, je ne pouvais plus travailler. J'arrivais même plus à aller à la pharmacie qui était de l'autre côté de ma rue. Je ne pouvais plus aller chez des amis, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Donc, ma vie, elle a complètement basculé, je n'avais plus de vie.
Et comment vous gérez ces douleurs depuis toutes ces années du côté des traitements? Qu'est-ce que vous prenez?
Alors, ça a commencé, il y avait une grande errance médicale, et donc à partir du moment où on m'a diagnostiqué, et c'est ça l'important, c'est diminuer l'errance médicale, d'où le fait de parler de cette maladie. C'est pour ça que j'ai créé mon compte, en fait, Instagram, et pour parler de cette maladie. À partir du moment où on diagnostique la maladie, on commence des traitements. Et le combat, pour moi, a commencé. J'ai vécu, moi, le diagnostic comme une délivrance.
Le soulagement dont on parlait tout à l'heure au sujet des maladies rares. Et vous avez eu également recours à la chirurgie?
Oui, donc j'ai commencé une vingtaine de traitements. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné chez moi, mais pour certains, ça fonctionne. Donc, voilà, il faut quand même le dire. D'où l'importance du diagnostic. Et après, malheureusement, j'ai été dans la neurochirurgie. Et là, c'était vraiment un autre monde, hein, parce que à 25 ans, j'étais plongée dans la neurochirurgie. J'ai vécu un an hospitalisée avec sept chirurgies, dont des chirurgies au cerveau. Et je suis sortie à 26 ans avec des séquelles irréversibles. J'ai perdu 20 kilos, j'étais chauve, je ne ressentais plus la faim. On m'a annoncé que j'étais stérile. Je distinguais plus le chaud du froid, j'avais une trentaine de cicatrices sur le corps.
On vous a annoncé ça, mais par la suite, ça s'est révélé faux?
Ça s'est révélé faux, puisque avec mon mari, on n'a pas voulu se résoudre à ne pas avoir d'enfant. On est passé par la case PMA, donc ça a été un long parcours.
Procréation médicalement assistée.
Oui, et on a réussi à avoir notre Raphaël et Capucine, des grossesses qui ont été extrêmement difficiles. J'ai accouché prématurément à 7 mois de nos deux enfants, mais ça a été une victoire sur la maladie. Finalement.
Les enfants sont là. Il nous reste moins d'une minute. L'accompagnement psychologique pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a été absolument primordial? On a entendu aussi, votre mari est là depuis le début. L'accompagnement psychologique, il a consisté en quoi?
Alors l'accompagnement psychologique, j'ai eu, ça a été par période en fait pendant ma maladie. Il y a des moments où j'ai eu besoin d'être accompagnée, surtout pendant mes opérations au niveau du cerveau, où c'était même obligatoire. Je pense que c'est quand on est atteint d'une maladie chronique, il est aussi obligatoire, franchement, d'être accompagné psychologiquement. Moi, après, c'est les réseaux et l'écriture m'ont permis vraiment d'avoir cet accompagnement psychologique. Je pense que chacun est différent.
Et chacun réagit à sa manière. Vous, Diane Ouattrolo, donc c'est ce compte Instagram. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ce compte, les mots en couleur, mots et plaies M-A-U-X, est séparé par un tiret de 8. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise, cette émission. Louise Caledec, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurent Hérault. Demain, émission spéciale questions de femmes, toilettes intimes, flore vaginale. On répondra bien sûr à toutes les questions des auditrices. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sonogroup. Rendez-vous tous les mardis sur les pages des réseaux sociaux Sonogroup pour en savoir plus sur nos produits d'assurance et services financiers. 7 000